Chapitre 8. Ces terres, cependant, bien que gorgées de poison, n'étaient pas complètement mortes. De temps en temps, les voyageurs apercevaient des silhouettes au-dessous d'eux, des choses difformes qui ne ressemblaient pas plus à des hommes qu'à des animaux, caracolant et cabriolant dans cette désolation qui s'autodévorait. La plupart s'assemblaient tantôt autour des groupes de cheminées cyclopéennes qui jaillissaient de la terre fondue, tantôt au bord des crevasses ardentes qui entaillaient le paysage. Il était impossible de distinguer ces choses blanchâtres et bondissantes dans le détail, et les voyageurs en éprouvèrent tous de la reconnaissance. Des créatures de plus grande taille se déplaçaient avec raideur parmi les autres, des masses roses qui ressemblaient un peu à de petites cigognes, un peu à des trépieds d'appareils photographiques doués de vie. Elles se mouvaient avec lenteur, rêveuses, tels des prêcheurs méditant sur une inéluctable damnation, faisant halte par-ci par-là pour se pencher brusquement en avant et piqueter quelque chose dans le sol, comme les hérons se ployant pour attraper des poissons qui passent. Il y avait là un je ne sais quoi d'indiciblement répugnant dans ces créatures. Roland le perçut aussi nettement que ses compagnons. Mais il était impossible de définir précisément ce qui causait ce sentiment. Sa réalité, cependant, était indéniable. La vue des choses cigognes, dans leur laideur exquise, était quasiment insoutenable.
Ce n'était pas une guerre nucléaire, dit Eddie, c'était...
Le filet de voix horrifié qui sortit de ses lèvres évoquait celui d'un enfant.
En effet, acquiesça Blaine, c'était bien pire que ça. Et ce n'est pas encore terminé. Nous avons atteint le point où je prends de la vitesse. Vous en avez vu assez ?
Oui, dit Susanna.
Oh mon Dieu, oui.
Puis-je éteindre les visionneuses dans ce cas ?
L'accent de taquinerie cruelle avait refait surface dans la voix de Blaine. À l'horizon, une chaîne de montagnes déchiquetées se dessina, cauchemardesque, à travers la pluie. Les pics stériles semblaient mordre le ciel gris comme des crocs.
Fais-le ou bien ne le fais pas, à ta guise. Mais arrête de jouer à ce petit jeu, dit Roland. Pour quelqu'un qui est venu me quémander un voyage, je te trouve très grossier, rétorqua Blaine d'un ton boudeur.
Nous avons gagné notre voyage,
répliqua Suzanne.
Nous avons résolu ta devinette, non ? Sans compter que c'est ce pourquoi on t'a construit, intervint Eddie. Pour transporter des gens ?
Blaine ne répondit pas par des mots. Les haut-parleurs du plafond émirent un sifflement amplifié de chats enragés qui fit regretter à Eddie de ne pas avoir fermé sa grande gueule. L'air autour d'eux commença à se remplir de courbes colorées, la moquette bleue réapparut, masquant à leur vue la désolation au-dessous d'eux. L'éclairage indirect se ralluma, et ils se retrouvèrent assis dans le compartiment de la baronnie. Un vrombissement sourd se fit entendre à travers les parois. La pulsation des moteurs s'accéléra. Jake sentit une douce main invisible le repousser dans son fauteuil. Otte regarda autour de lui, gémit, inquiet, et se mit à lécher le visage de Jake. Sur l'écran, le point vert, à présent légèrement au sud-est du cercle violet à côté duquel s'inscrivait le mot « Lud », commença à clignoter plus vite.
« Allons-nous le sentir ?» demanda Susanna mal à l'aise. « Quand il va franchir le mur du son ?»
Eddie secoua la tête. « Non, détends-toi. »
« Je sais quelque chose !» dit soudain Jake.
Tous le regardèrent, mais ce n'était pas à eux que s'adressait le garçon. Ils considéraient la carte de l'itinéraire. Blaine n'avait pas de visage, bien sûr. Comme le grand et terrible Oz, ce n'était qu'une voix désincarnée. Mais la carte servait de point de concentration.
« Je sais quelque chose à ton sujet, Blaine. »«
Ah oui, raconte-moi ça, petit pied tendre. »
Eddie se pencha, posa ses lèvres contre l'oreille de Jake et chuchota.
« Sois prudent. D'après nous,
connaît pas l'existence de l'autre voie. » Jake hocha à peine la tête et s'écarta, fixant toujours l'itinéraire.
« Je sais pourquoi tu as libéré ce gaz et tué tous ces gens. Je sais également pourquoi tu nous as emmenés. Et ce n'est pas uniquement parce que nous avons trouvé ta devinette. »
Blaine émit son rire anormal, égaré. Ce rire, découvrirent-ils, était beaucoup plus désagréable que ses mauvaises imitations ou que ses menaces mélodramatiques un peu puériles. Mais ne dit rien. Sous eux, les turbines à transmission lente faisaient maintenant entendre un ronronnement constant. Même privés de la vision de l'extérieur, la sensation qu'ils avaient de leur vitesse était très nette.
« Tu as l'intention de te suicider, n'est-ce pas ?»
Jake tenait ôté dans ses bras, le caressant doucement.
« Et tu veux nous entraîner dans la mort avec toi ?»« Non !»
gémit la voix de petit Blaine.
« Si vous le provoquez, vous l'y pousserez, ne voyez-vous pas que... »
Puis la petite voix chuchotante fut soit coupée, soit noyée sous le rire de Blaine. Haut perché, strident et saccadé, c'était le rire d'un homme mortellement atteint en pleine crise de délirium. Les lumières se mirent à vaciller comme si la puissance de ces bouffées de joie mécanique étirait trop de courant. Leurs ombres s'élevaient et descendaient le long des parois incurvées du compartiment de la baronnie, tels des fantômes inquiets.
«
À toute ma choute, » dit Blaine à travers son rire de démon. Sa voix, aussi calme qu'à l'accoutumée, semblait fonctionner sur une piste séparée, soulignant d'autant sa schizophrénie. « À plus, ma puce. Oublie pas de m'écrire. » Sous le groupe des pèlerins de Roland, les moteurs à transmission lente cognaient en dur et constant battement. Et sur la carte, à l'avant du compartiment, le point vert clignotant s'était mis à progresser de façon perceptible le long de la ligne lumineuse en direction du dernier arrêt, Topeka, là où Blaine le mono avait clairement l'intention de mettre un terme à leur existence à tous.